France Musique.
Merci d'avoir choisi France Musique. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Que Marc Minkowski est le directeur général de l'Opéra National de Bordeaux. Quand le Grand Théâtre pourra-t-il à nouveau accueillir chanteurs et musiciens? Comment le chef d'orchestre réagit-il à la baisse de subventions décidée par la région Nouvelle-Aquitaine? Voilà quelques-unes des questions que nous poserons à Marc Minkowski. Il est notre invité à 9h moins le quart. Une réouverture très progressive des salles de spectacle dès le mois de juin. C'est l'une des annonces faites par Édouard Philippe hier. C'est au programme de Classique Info avec Sophie Anastasio à 8h40. Comment reprendre l'activité chorale en France face à la crise sanitaire? Dans la région Centre-Val-de-Loire, un centre de pratique vocale organise des rendez-vous en ligne à destination des professionnels du chant. Mais pour leur dire quoi? Réponse à 8h25 avec Suzanne Gervais. Et puis mal en point économiquement, Renault va supprimer 8% de ses effectifs. En France, cela représente 4600 emplois qui vont disparaître. On en parle dans le journal de 8h30 avec Olivier Denré.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Très bon réveil en musique avec ni zone rouge ni virus. Voici la Clémence de Titus.
Thank you.
Mozart, pour commencer ce matin avec l'ouverture de la Clémence de Titus, son tout dernier, son ultime opéra. Mais ici, arrangé, vous l'aurez remarqué, qui n'est pas dans sa version originale pour orchestre, et ici pour flûte et quatuor à cordes, un arrangement d'un inconnu du XVIIIe siècle. Henrik Wies, lui, n'est pas un inconnu, c'était le flûtiste, avec le quatuor Artemis, les quatre musiciens à cordes allemands qui ont fêté leurs 30 ans d'existence. Ils nous donnent rendez-vous demain soir à 20h en direct du Concerthaus de Dortmund pour un concert à voir sur Internet, évidemment, en ce moment, en streaming. On en parle ici tous les matins. En l'absence de concerts en public, ces rendez-vous en direct qui se multiplient depuis quelques jours. Et c'est donc le cas cette fois en Allemagne, à Dortmund, demain soir à 20h. C'est le cas aussi d'ailleurs en France, à Dijon, où l'opéra a lancé cette semaine un grand festival à voir sur son site. Ça se prolonge d'ailleurs jusqu'à début juillet. Artistes en résidence, artistes en résistance, accueillent des musiciens amis de l'opéra de Dijon. Ils résident parfois depuis de longues années à l'opéra. C'est le cas de Leonardo Garcia Alarcón avec son ensemble La Cappella Mediterranea et la chanteuse Mariana Flores, le chef argentin qui propose ce soir un programme autour des compositrices vénitiennes. La plus connue, c'est certainement Barbara Strozzi. Voici Priego ad amore, je prie d'aimer. C'est un madrigal qu'elle écrit, Barbara Strozzi, en 1644.
Amen.
Priego ad amore, un madrigal signé Barbara Strozzi, la Capella Mediterranea, dirigée par Leonardo Garcia Alarcón. Un chef et son ensemble à retrouver ce soir en ligne et en direct à l'Opéra de Dijon, dans la musique de cette compositrice vénitienne et d'autres encore. C'est le festival Artistes en Résidence, Artistes en Résistance, que soutient France Musique. D'ailleurs, on va enregistrer un certain nombre de concerts que vous découvrirez ces prochaines semaines et cet été. La Philharmonie de Paris aussi a débuté ses concerts sans public cette semaine. Hier, c'était Renaud Capuçon et ses amis. Mercredi, des musiciens de l'Orchestre de Paris, sans public. Mais dans la salle, il y avait une personne, un journaliste de Libération, chroniqueur à France Musique. C'est vous, Guillaume Thiron.
Oui, bonjour Jean-Baptiste. La reprise tant attendue des concerts. Rappelez-vous tous ces musiciens réunis dans la même pièce qui s'entendent pour donner vie à une œuvre écrite sur partition. Le public est encore proscrit des salles et les artistes jouent pour l'instant devant des fauteuils vides. Ces spectacles sont captés puis ensuite diffusés sur des plateformes ou des chaînes musicales. Et mercredi dernier donc, j'ai assisté à deux événements de taille. Le premier, c'était la réouverture de la Philharmonie, vaisseau amiral de la flotte concertante française. L'orchestre de Paris, résidant là-bas et dont les aléas du Covid n'ont pas arrangé la nomination d'un futur directeur musical, a donné un programme Strauss-Wagner qui montait en puissance de 6 à 18 musiciens. Les artistes étaient positionnés selon les normes sanitaires, c'est-à-dire séparés d'un mètre au moins, mais sans barrage de plexiglas, et n'étaient pas non plus masqués, à l'inverse des techniciens qui surgissaient lors des changements de plateau et des quelques journalistes en fond de salle. L'ambiance ressemblait à une répétition guindée où les musiciens se seraient habillés en frac. Pour cette captation diffusée sur Arte Concert, les 20 personnes présentes n'avaient pas le droit d'applaudir et les fermata résonnaient dans un silence solennel. À la fin de l'enchantement du Vendredi Saint, extrait de Parsifal, les musiciens se sont donc applaudis eux-mêmes en souriant. Ils auraient retrouvé le Graal, qu'ils n'auraient pas été plus contents. De l'autre côté de Paris, à la Fondation Saint-Gé-Polignac, se donnait le premier concert déconfiné du Balcon, l'ensemble de Maxime Pascal qu'on ne présente plus. Avec un programme formidable qui associait Boulez, Gesualdo, soutenu par de la guitare électrique, et aussi Gérard Griset. Un programme diffusé, lui, sur la chaîne Medici. Là encore, les musiciens étaient non masqués, mais respectaient les distances, sans public, et, entre les pièces du programme, des robots jouaient de la musique. Ces petites machines, bricolées par le compositeur Pedro Garcia Velasquez, tapaient sur des glockenspiel, des cymbales, des bongos, sous les dorures de la Fondation. Mais le plus important dans cette reprise, chers auditeurs, ce n'était ni les robots ni les retrouvailles avec la Philharmonie, c'était l'intense envie de jouer de la part des musiciens. On sentait de partout la joie revenir, les instrumentistes et ingénieurs du son papotaient comme avant, se congratulaient, se souriaient, se saluaient du coude. Ces premiers concerts sans public marquaient avant tout les retrouvailles avec l'esprit de la musique, absolument pas entamée par la pandémie.
Guillaume Thiron, Libération, c'était un court extrait qu'on a entendu de ce concert donné mercredi à la Fondation Saint-Gervais-Polignac à Paris, à revoir sur la chaîne Medici.tv. Et puis les concerts de la Philharmonie, bah c'est sur le site de la Philharmonie de Paris. Vive les concerts à voir en streaming sur Internet, mais vive aussi les concerts à la radio, parfois d'ailleurs les deux, c'est ce que nous annonçait hier notre invité Michel Aurier, le directeur de la musique de Radio France, avec la reprise des concerts ici à la Maison de la Radio dès la semaine prochaine, en direct sur France Musique et sur Arte Concert. On y reviendra bien évidemment au fur et à mesure de ces concerts. Concert à la radio ce soir à 20h, Benjamin François propose une grande soirée d'archives avec nos deux orchestres, l'Orchestre National et le Philharmonique de Radio France autour d'Igor Stravinsky. Pourquoi ? Eh bien parce que nous sommes le 29 mai. Qu'est-ce qui s'est passé le 29 mai 1913 au Théâtre des Champs-Élysées à Paris ? L'un des plus grands scandales de l'histoire artistique, la création du Sacre du Printemps. Ici, c'est l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Myung-Woon Chung, qui joue la glorification de l'élu.
Thank you.
Une musique qui fit scandale il y a tout juste 107 ans, si je compte bien, oui c'est bien ça. Glorification de l'élu, extrait du Sacre du printemps d'Igor Stravinsky. C'était l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Myung-Woon Chung. Soirée Stravinsky, ce soir à 20h sur France Musique, avec des extraits de concerts de nos formations musicales de la radio, et c'est avec Benjamin François. 8h17, un jour, une voix, chaque matin, une voix de France Musique nous dévoile l'une de ses musiques de chevet aujourd'hui. C'est celle qui tous les jours présente les journaux de 13h et 18h sur France Musique, Marie-Hélène Duvigneau.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Alors c'est d'une chanteuse que j'ai choisi de vous parler ce matin, Cécile McLaurin-Salvant. Je suis devenue totalement fan lors d'un concert qui remonte à quelques mois maintenant, au mois de janvier dernier exactement. Ça s'est passé ici même à la Maison de la Radio, au studio 104. Alors bien sûr c'était avant les mesures de confinement, quand personne n'imaginait que nous puissions un jour être privés de ces moments de partage. Bref, Cécile McLaurin-Salvant, donc cette franco-américaine, chante tout ce qui lui plaît, jazz, blues, folk américain, comédie musicale, mais aussi chansons françaises et ses propres compositions. Alors émotion, énergie, humour, ce concert c'était tout ça grâce à une voix magique. Je ne suis pas vraiment spécialiste, alors je vais en citer un pour parler de cette voix. Le genre de technique vocale tellement éblouissante qu'elle annihile tout sentiment d'effort, donc de présence d'une technique, précision des attaques, justesse, saute de registre, chaleur du timbre. Et bien, ces propos sont signés de notre ami Alex Dutille, autre référence dans le monde du jazz, le trompettiste Wynton Marsalis dit d'elle qu'elle fait partie de ces chanteuses comme il en apparaît une par génération dans le meilleur des cas. Alors pour le plaisir, je vous propose d'écouter non pas ce concert que France Musique vous proposera cet été, mais un extrait du dernier disque de Cécile McLaurin-Salvant, accompagné au piano par Sullivan Fortner, Visions.
People hand in hand, have I lived to see the milk and honey land, where hate's a dream and love forever stands? Or is this a vision in my mind? Somehow men feel they are truly free at last. Have we really gone this far through space and time? Or is this a vision in my mind? Are green, they only turn to brown when autumn comes around. I know just what I say, today's not yesterday, and all things have. But what I'd like to know is, could a place like this exist so beautiful? Or do we have to find our wings and fly away to the vision in our minds? Thank you. I'm not one who make believes. I know that leaves are green. They only turn to brown when autumn comes around. I know just what I say. Today's not yesterday, and all things have. But what I'd like to know is, could a place like this exist so beautiful? Or do we have to find our wings and fly away to the vision in our minds?
Visions de Stevie Wonder dans cette merveilleuse interprétation de Cécile McLaurin-Salvant avec Sullivan Fortner au piano. Une belle musique du matin qui évoque le soir, la veille, et on retrouvera Cécile McLaurin-Salvant en concert, ce concert dont parlait Marilène Duvigneau au studio 104. Ce sera cet été sur France Musique. Choix donc de Marie-Hélène. On la retrouve à 13h et à 18h pour les éditions d'info de France Musique. Il est 8h24. Voici Suzanne Gervais. Bonjour Suzanne.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
Alors il est interdit en Allemagne, pointé du doigt un peu partout dans le monde, le chant choral est à l'honneur dans votre chronique du jour, puisque vous nous parlez d'une initiative du Centre de pratique vocale et instrumentale de la région Centre-Val de Loire, ça s'appelle le CEPRAVOIS, bien connu des musiciens professionnels.
Oui, le CEPRAVOIS est à la fois un centre de ressources, et un centre de formation avec une offre plutôt conséquente de stages et d'ateliers. Des stages qui sont très variés, sur le gospel, les voix ukrainiennes, la technique vocale pure, la respiration, ce ne sont que quelques exemples. Le CEPRAVOIS aide aussi les jeunes chœurs de Centre-Val de Loire à développer leur activité. Or, vous le savez, le milieu du chant choral est particulièrement affecté, c'est peu de le dire, par la crise sanitaire. En Allemagne, les chorales n'ont toujours pas le droit de répéter par crainte du virus. Chez nous, en France, c'est encore le grand flou sur la reprise de leur activité, malgré le stade 2 du déconfinement annoncé hier par le Premier ministre. Certaines chorales font des essais de répétition dehors, en extérieur, mais l'immense majorité est encore à l'arrêt. La reprise va être très progressive. Une situation incertaine face à laquelle le CEPRAVOIS a décidé d'organiser une série de rendez-vous en ligne, gratuits, ça se passe sur Zoom. Ces rendez-vous, ils sont destinés aux professionnels du chant choral, les chefs de chœur, les choristes pro et amateurs aussi. L'idée, c'est de permettre aux participants de partager leur expérience, de trouver des pistes pour sortir de cette confusion générale. Trois dates sont à retenir, le samedi 6 juin, le mercredi 17 et le samedi 20 juin. Les rendez-vous durent à chaque fois une heure et demie. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 4 juin. Je vous conseille de ne pas trop tarder car il y a déjà beaucoup, beaucoup d'inscrits. Notez aussi, chefs de chœur et choristes qui nous écoutaient ce matin et qui avaient besoin d'informations pour vous adapter à la situation, pour savoir quoi faire travailler à distance à vos chanteurs et comment gérer, bien sûr, une éventuelle reprise des répétitions. Notez que malgré ce flou général, vous avez quand même des informations à disposition. L'Institut français d'art choral a publié sur son site internet une synthèse sur les bonnes pratiques pour reprendre le travail. Et puis vous pouvez aussi consulter le guide très très bien fait publié par l'European Choral Association. Il est en anglais. Il s'appelle « Comment le monde du chant choral gère-t-il la situation Covid-19 ?» À ne pas manquer donc, les liens seront indiqués à la page de ma chronique sur France Musique.
Une chronique qui s'intitule Musique connectée. Suzanne Gervais, merci. À lundi, bon week-end.
À lundi, bon week-end.
Un chœur et même deux chœurs sur France Musique, le chœur philharmonique slovaque de Bratislava et le chœur de la radio de Berlin. Ils chantent Longue vie au tsar Boris. C'est Boris Godounov et c'est signé Moussorski. Mozart, extrait de Boris Godunov de Moussorski, le chœur philharmonique slovaque de Bratislava, le chœur de la radio de Berlin et l'orchestre philharmonique de Berlin dirigé par Claudio Abbado. Boris Godunov donné à l'Opéra de Paris dans la mise en scène d'Ivo Van Hove. C'est à voir sur le site de l'Opéra. C'est jusqu'à dimanche soir. Il vous reste donc un peu plus de 48 heures. Et puis il y a une autre production, vous pouvez comparer ce week-end si vous avez le temps, donnée elle par l'Opéra de Sofia. Ça c'est à voir sur le site Opéra Vision.
Musique Matin, Jean-Baptiste Urbain.
Quand la musique va-t-elle résonner à nouveau au Grand Théâtre de Bordeaux? Marc Minkowski, le directeur général de l'Opéra, est notre invité. Rendez-vous vers 8h45. Bach a écrit 6 sonates pour violon et clavier. Stéphanie-Marie Degand et Violaine Cochard viennent de les enregistrer. C'est notre disque du jour. Il est à découvrir dans une dizaine de minutes. Et puis juste avant, dans Classique Info, Sophie Anastasio va revenir sur les annonces d'Édouard Philippe. Hier, annonce pour le monde de la culture et les spectacles, avec aussi les toutes premières réactions. Mais pour l'heure France Musique, il est 8h30. Le journal avec Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Des règles du jeu beaucoup plus souples à partir de mardi prochain parce que la situation sanitaire est plutôt bonne désormais. Le gouvernement estime que la liberté doit ainsi redevenir la règle, même si dans l'espace public, les rassemblements ne pourront pas dépasser 10 personnes. La limite des 100 km est donc supprimée pour permettre, a dit le Premier ministre, la reprise d'une vie presque normale et relancer également l'activité économique. Les autorités affichent toutefois une carte de France bicolore. Le vert domine largement, mais l'Île-de-France, Mayotte et la Guyane sont orange, ce qui signifie que dans ces territoires, il va encore falloir faire preuve de beaucoup de prudence. En zone verte, les bars, les restaurants, mais aussi les campings, les piscines, les salles de sport et les gymnases vont pouvoir rouvrir le 2 juin. En zone orange, il faudra attendre la date du 22 juin pour espérer un retour à la normale. Dans cette zone, on verra tout de même les terrasses se remplir dans 4 jours. Comme on verra d'ailleurs du monde partout en France, dans les parcs et les jardins désormais accessibles. Même chose pour les plages et les musées. Et puis c'est important, mais ce retour à une vie presque normale permet également une réouverture beaucoup plus large des établissements scolaires. La plupart des élèves des collèges et des lycées vont donc retrouver leurs professeurs et leurs salles de classe mardi prochain. Sonia Princey.
C'est une réouverture quasiment partout, mais à petite dose. Le protocole sanitaire très strict n'est pas assoupli, pas plus de 15 élèves par classe, mais toutes les écoles et tous les collèges seront ouverts, quel que soit le département. L'accueil sera élargi aux élèves de 4e et 3e, sauf en zone orange, où la priorité sera donnée dans un premier temps aux 6e et 5e. Dans les lycées, en revanche, il faut distinguer les départements verts, où l'ensemble des établissements lycées généraux, technologiques et professionnels redémarrent, et les départements orange, où seuls les lycées professionnels rouvrent leurs portes, en particulier pour les élèves de terminale et de CAP qui ont besoin de certifications professionnelles pour valider leur diplôme. Tous les lycéens devraient néanmoins bénéficier d'un entretien individuel pour leur orientation notamment. Une attention particulière sera accordée aux décrocheurs et des cours en tout petits groupes pourraient être organisés. Partout, l'accueil sera forcément limité à quelques jours, quelques heures par semaine, avec une rotation des élèves. Certaines mairies pourraient proposer des activités pour les écoliers et les collégiens, mais pour ceux qui ne seront pas en classe, l'enseignement à distance va se poursuivre pour les 5 semaines qui restent avant les vacances d'été.
Quant à l'oral du bac de français, la décision a finalement été prise de ne pas le faire passer aux élèves de première. À la place, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a décidé de valider cette épreuve par le contrôle continu et les notes des 2 premiers trimestres. Enfin, pour en savoir plus sur toutes les nouvelles règles en vigueur dans le monde de la culture, je vous invite à patienter encore quelques minutes. Sophia Anastasio vous dira tout dans Classique Info. Ce sera à 8h40. Présenté hier soir au syndicat, le plan d'économie du groupe Renault fait une croix sur 15 000 postes de travail dans le monde. En France, 4 600 emplois vont disparaître. Le constructeur automobile affirme, Isabelle Raymond, qu'il n'y aura aucun départ forcé.
4600 postes en moins chez Renault, c'est 8% de l'effectif de la marque Losange dans l'Hexagone qui est supprimé. Il n'y aura pas de licenciement sec, mais des départs à la retraite non remplacés, parfois anticipés, plus un plan de départ volontaire. Ces suppressions de postes concernent pour moitié des ingénieurs et des cadres, pour l'autre des ouvriers. Dans le détail, 2 petits sites vont fermer, Choisy-le-Roi en région parisienne, ainsi que les fonderies de Bretagne, usine pour laquelle Renault dit chercher un repreneur. Flins, où est aujourd'hui produite la Zoé électrique, n'assemblera à terme plus de voitures structure et va perdre au passage 1000 postes. Le site de Dieppe, lui, où est produite l'Alpine, est en sursis, tout comme celui de Maubeuge. Renault se met au régime sec avec le feu vert de l'État actionnaire qui vient de lui garantir un prêt de 5 milliards d'euros. Il faut dire que l'ancienne régie était déjà en sérieuse perte de vitesse avant la crise du coronavirus. Le constructeur tricolore va maintenant tenter de prendre un nouveau virage avec un directeur général venu de chez Seat. Luca De Meo prendra ses fonctions le 1er juillet.
Un directeur général qui validera la suspension de plusieurs projets prévus au Maroc et en Roumanie. Au total, le groupe espère faire 2 milliards d'euros d'économies. Renault qui compte toujours d'ailleurs sur un prêt garanti de l'État de 5 milliards d'euros pour passer la crise sanitaire qui a provoqué l'arrêt des usines et l'effondrement des ventes de voitures. La victoire des anciens salariés de Goodyear, le géant américain, est condamné en appel pour avoir licencié abusivement plus de 800 personnes à Amiens. C'était en janvier 2014. Menaces promises et décrets vengeurs signés pour Donald Trump dans la ligne de mire du locataire de la Maison Blanche. Les réseaux sociaux en général et Twitter en particulier qui a jugé cette semaine que deux messages du président devaient être vérifiés. Les plateformes ne seront donc bientôt plus protégées par un article d'une loi de 1996. Ce texte leur confère une immunité contre toute poursuite liée au contenu qu'elles publient. Le décret de Donald Trump veut ainsi limiter les libertés des géants d'Internet à 5 mois maintenant de la prochaine présidentielle. Sans surprise, le Parlement chinois a adopté hier une loi qui va limiter les libertés à Hong Kong. Ce texte va notamment permettre de poursuivre avec plus de vigueur les opposants pour des raisons politiques. Assigné à résidence en Belgique, Laurent Gbagbo va pouvoir quitter le pays sous certaines conditions. C'est une décision de la Cour pénale internationale de La Haye. L'ancien président de Côte d'Ivoire a finalement été acquitté l'année dernière après un procès pour des crimes commis dans son pays dans la foulée des élections organisées il y a 10 ans. La mort de Guy Bedos, très engagé à gauche, l'humoriste s'est éteint hier à l'âge de 85 ans, adepte des revues de presse cinglantes. Guy Bedos était aussi un homme de théâtre et de cinéma. En 1990, il avait reçu le Molière du meilleur one-man show. Encore une journée très estivale, le soleil brillera largement sur la plupart des régions. Les nuages près de la Manche vont se dissiper rapidement ce matin. Il y aura des averses tout de même et des orages sur le sud des Alpes et sur l'est des Pyrénées. Les températures, elles varient de 8 à 18 degrés ce matin. Cet après-midi, elles iront de 18 à 32 degrés du nord au sud de la France. Jean-Baptiste Urbain.
C'est le journal d'Olivier Denré. À lundi, Olivier, c'est pas mal cette météo avec des mouettes, la mer et cette musique à lundi. Alors, ça vous dit quelque chose? Vous vous souvenez, c'est la musique d'un éléphant. Ça trompe énormément. Musique signée Vladimir Cosma. 1976, ce film d'Yves Robert avec Guy Bedos, un médecin hypochondriaque étouffé par sa mère, interprété par Marthe Villalonga, et sur des dialogues signés Jean-Loup Dabadie. Hommage sur France Musique. Hier, on pouvait réécouter dans les trésors à 23h une émission de Pierre Bouteiller en 1998. C'est bien sûr disponible en podcast à la réécoute. La suite de cette émission, d'ailleurs, c'est ce soir à 23h. Dabadie raconte son amour de la musique, notamment comment il a découvert Chopin avec le pianiste Samson François, par exemple. Et puis, à 11h demain, chez Benoît Duteurtre également, rediffusion d'un entretien avec le grand dialoguiste auteur de chansons. Dans la première demi-heure de Musique Matin, on évoquait les concerts en live streaming. Pas facile de les voir en direct quand on habite à l'autre bout de la planète. Alors le pianiste allemand Igor Levit a eu une idée. Demain, à partir de 14h, il va jouer Vexation d'Erik Satie en direct d'un studio de Berlin. Une œuvre qui dure 20 heures, un thème et deux variations répétées 840 fois. On pourra ainsi voir un moment de ses vexations, quel que soit son fuseau horaire. Igor Levit, le voici non pas dans Satie, mais dans la musique de Beethoven. La fin de la 18e sonate de Beethoven, La Chasse, c'était Igor Levit et c'est extrait de son intégrale absolument remarquable paru cette saison, cette année, chez Sony. France Musique, 8h41, voici Classique Info. Avec Sophia Anastasio, bonjour Sophia.
Bonjour Jean-Baptiste.
Allez, on commence avec les annonces très attendues d'Edouard Philippe, c'était hier, et notamment les annonces sur la réouverture des lieux culturels.
Le Premier ministre présentait les modalités de la deuxième phase de déconfinement concernant la culture. Les musées et les monuments pourront rouvrir le 2 juin, mardi prochain donc, tout comme les salles de spectacle situées en zone verte. Le port du masque sera obligatoire et la gestion de l'espace devrait être conforme au protocole sanitaire. En zone orange, c'est-à-dire l'Île-de-France, la Guyane, Mayotte, la réouverture des salles est prévue pour le 22 juin.
Édouard Philippe s'est également exprimé sur les événements en plein air.
Notre adversaire, ce sont les très grands rassemblements, a déclaré le Premier ministre. Les événements de plus de 5000 personnes en plein air restent donc interdits. Une jauge maximale qui pourra être revue à la baisse par les préfets.
Et déjà des réactions, plusieurs voix qui se sont élevées contre ces modalités de déconfinement.
Si c'est la fin d'un long tunnel, comme le titre Le Figaro, ce déconfinement s'annonce déjà comme un casse-tête pour le spectacle vivant. Édouard Philippe l'a d'ailleurs admis hier en déclarant ne pas méconnaître, je cite, « la difficulté pratique de rouvrir ses équipements dès lors que la programmation s'est trouvée perturbée et que les répétitions n'ont pas pu intervenir ». Le spectacle vivant ne fonctionne pas comme ça, réagit auprès de l'AFP Malika Seguino, directrice générale du Prodis, première organisation patronale du spectacle musical dans le privé. Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton, ajoute-t-elle. Même constat pour Jean-Michel Rib, directeur du théâtre du Rond-Point.
Et le Prodis justement avait fait part de ses souhaits hier avant l'intervention du Premier ministre.
Ouvrir les salles avec une jauge dégradée, ce n'est pas viable économiquement pour le Prodis qui, dans ce communiqué publié hier, réclamait la réouverture des salles de spectacle sans distanciation, le maintien du chômage partiel à taux plein jusqu'en août 2021 et une aide structurelle massive de 250 millions d'euros.
Dans l'actualité musicale également, Sophia, une démission totalement inattendue, celle d'Emmanuel Krivine à la tête de l'Orchestre National de France.
Le chef a annoncé sa démission hier, invoquant des raisons personnelles. Directeur musical de l'orchestre formation de Radio France depuis 2016, le chef, âgé de 73 ans, devait quitter ses fonctions à la fin de la saison 2020-2021, avant d'être remplacé par Christiane Matchelaroux.
Le concours Long Thibaut Crespin annule son édition 2020.
Consacrée au chant, elle devait se tenir à Paris en novembre prochain, mais face à l'incertitude de la reprise du trafic aérien, la compétition internationale a décidé de reporter à 2022 cette édition chant. L'année prochaine, ce sera le violon.
Et on termine avec la réouverture de l'Opéra National de Finlande à Helsinki, ce sera le 28 août.
Et c'est avec une nouvelle version de Cosi Fan Tutte, rebaptisée Covid Fan Tutte, que l'institution va ouvrir sa saison d'automne. La partition de Mozart reste, elle sera dirigée par Esa-Pekka Salonen avec la soprano Carita Mattila, mais le livret sera modifié par Mina Lindgren.
Sophia Anastasio, Classique Info, il paraît que vous vouliez aussi, vous, quelques vagues, les voici.
Ah oui, merci, ça me fait plaisir.
Je vous en prie. Voilà, des mouettes et des vagues et on vous retrouve lundi. Bon week-end, Sophia.
Bon week-end.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Le disque du jour, c'est une nouveauté parue chez Nomade Musique, les 6 sonates pour violon et clavecin de Jean-Sébastien Bach avec Stéphanie Marie Degand au violon, Violaine Cochard au clavecin, sonate pour clavecin et violon d'ailleurs plutôt, puisque le clavier n'a pas du tout ici un rôle d'accompagnateur. D'ailleurs, toutes les copies que nous avons retrouvées contemporaines à Bach indiquent d'ailleurs bien clavecin et violon, et non l'inverse. Les deux musiciennes célèbrent ici 30 ans d'amitié musicale, comme une évidence d'ailleurs quand les voix de leurs instruments se croisent. Thank you. Jean-Sébastien Bach, le deuxième mouvement Allegro de la première sonate pour violon et clavecin, Stéphanie-Marie Degan au violon, Violaine Cochard au clavecin, un disque qui vient de sortir chez Nomade Musique. Et dans un instant, nous allons retrouver notre invité, il est 8h48.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Notre invité est l'un des plus grands chefs d'orchestre français réputé depuis longtemps dans le baroque, mais également depuis 4 ans directeur général de l'Opéra National de Bordeaux. Bonjour Marc Minkowski.
Bonjour.
Hier, Édouard Philippe, le Premier ministre, a annoncé une réouverture des salles de spectacle progressive à partir de juin. On vient de le détailler à l'instant à l'antenne. Vous, à Bordeaux, la saison, quand va-t-elle pouvoir reprendre dès septembre comme prévu, ou vous n'en avez pas la moindre idée?
Oui, septembre, évidemment, comme presque tous les théâtres de France, nous allons reprendre et annoncer bientôt. Par rapport à hier, je suis mitigé, c'est-à-dire que je suis plein d'émotions, de joie, comme tous mes collègues artistes, évidemment, mais je suis un petit peu aussi comme Pénélope, qui ne croit pas au retour d'Ulysse. Oui, c'est bien d'ouvrir le théâtre, mais dans quelles conditions, avec combien de personnes en tout cas, actuellement pour nous, c'est depuis hier, c'est le branle-bas de combat. On va essayer de faire quelque chose avant l'été. On a déjà des scolaires qui commencent la semaine prochaine. On a prévu un petit festival en plein air, mais du coup, on le fera peut-être dans le théâtre début juillet. Et voilà, on s'active de toutes parts pour s'adapter. De toute façon, depuis 3 mois, c'est le maître mot, hein, s'adapter pour tout le monde.
Donc vous nous annoncez peut-être un mini-festival pour juillet, soit en plein air, soit dans le théâtre. Tout ça est oui. Work in progress, comme on dit.
Exactement. Il faut être plein de... On nous a dit d'inventer, donc voilà. Bon, ce qu'on ne peut pas faire, évidemment, c'est le 30, c'est-à-dire demain, on aurait dû ouvrir notre trilogie d'Atente, qui aurait dû rentrer en répétition le 15 avril. Ça, malheureusement, on n'y arrivera pas. Mais voyons.
Alors... des spectacles à venir, peut-être en juillet en plein air ou à l'opéra, et ensuite en septembre, vous imaginez une salle, le Grand Théâtre de Bordeaux, avec des espaces entre les personnes, des masques, ou comment vous voyez les choses?
Tout va tellement vite que septembre, c'est loin, hein, ouais. Nous ne sommes même pas au mois de juin, donc espérons que ça aille de mieux en mieux. Et qu'on puisse avoir un protocole dans la salle quasi normal ou à moitié normal, je ne sais pas. En tout cas, non, nous allons annoncer notre saison. Je peux vous dire qu'on.
On peut savoir déjà quelques petites choses ou pas?
Je peux pas le dire, mais je vais le dire quand même. Ah. Nous aurons une belle Traviata, une belle Carmen et plein de titres d'opéra, de ballet, de concerts symphoniques, des projets pédagogiques. Nous travaillons avec des merveilleux chœurs d'enfants. Nous avons aussi notre chœur à nous qui a de très beaux programmes. Non, beaucoup de choses. Nous avons attendu. Nous sommes très très en retard par rapport à nos collègues, mais nous avons estimé qu'il était plus sûr d'attendre pour offrir à notre public une programmation réaliste. Voilà. Après ça, pour nous, c'est essentiel de jouer. Nous sommes, je crois, le cœur culturel de la région Nouvelle-Aquitaine et de la ville de Bordeaux, et nous devons exister dès que possible. Et donc pourquoi pas d'ici quelques semaines.
Marc Minkowski, le cœur de la région, et pourtant la région Nouvelle-Aquitaine, elle a annoncé la diminution de 200 000 euros de la subvention qu'elle octroie à l'opéra. Elle parle de rééquilibrage. Quelle est votre réaction?
Alors, naturellement, je ne suis pas content, comme vous pouvez l'imaginer, mais ce que je n'aime pas, c'est la façon dont les choses se passent. Je crois que pendant cette crise et à l'avenir, le mot-clé, c'est la solidarité. Et je trouve insupportable que, en période où justement de pertes financières énormes, de doutes, un subventionneur peut-être dans la difficulté, en plein milieu de cette crise, nous déshabille de la sorte, sans aucune concertation, aucun dialogue. C'est très lâche. Et j'espère quand même que un centre de réflexion, parce qu'il y a des gens formidables dans cette région et dans ce conseil régional, j'espère qu'on va revoir ce qui se passe, c'est sûr qu'il faut aider tout le monde. Je parle de solidarité. Voilà, il y a sûrement des petits théâtres, des petits ensembles aussi qui ont besoin de fonds. Mais nous sommes un pourvoyeur de travail pour les intermittents de toute la région, même je veux dire de tout le théâtre, de tout le territoire national. Et si on nous baisse comme ça, ben ce sont moins de production, moins d'emplois, moins de et donc beaucoup d'emplois moins pour les intermittents que nous employons en plus de nos salariés, bien sûr. C'est donc espérons que ça change.
Vous n'avez pas été prévenu du tout. Vous avez après l'annonce comme
courrier,
tout le monde.
D'accord. Un petit courrier anodin. Non. Et après naturellement il y a eu des discussions. Non. C'est un peu la mode en ce moment. Comme tout le monde aussi passe sa vie sur Zoom et etc. Bon, c'est très bien, hein, ça compense pas mal de choses, mais non, il faut le contact, les explications, les discussions, les adaptations doivent rester notre ADN. Voilà, de même que nous vivons du rassemblement du public avec nous, alors dans des jauges effectivement pas trop grandes, que ce soit à l'auditorium ou à l'opéra, et le dialogue est très important.
Marc Minkowski, vous parlez comme directeur général de l'Opéra National de Bordeaux, vous êtes aussi chef, musicien. L'homme, cette période de ces deux mois, comment vous l'avez vécu plus personnellement, plus intimement?
Alors, j'ai eu beaucoup de mal au début à accepter toutes ces restrictions. Et je trouve quand même qu'on nous a pris un peu pour des enfants. Mais au bout d'un moment, excusez-moi, voyant que les résultats étaient bons, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est bien, les choses avancent. Et je me suis un petit peu replié sur moi-même, j'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai aussi préparé avec un ami intervieweur un ouvrage, c'est pas une biographie, mais c'est mon parcours depuis mon adolescence jusqu'à maintenant que nous avons mis en interview et en livre bientôt. Donc voilà, on fait fonctionner ces méninges et puis on espère et puis on s'informe et on regarde aussi internationalement ce qui se passe. Voilà, je trouve que et encore maintenant, il est temps d'agir. Je pense que c'est très important que le monde de la culture, entre autres, hein, le monde médical, mais le monde de la culture doit absolument se synchroniser. On entend qu'il y a des opéras qui reviennent, qui se répètent en Corée en ce moment. Voilà, on entend qu'on peut recevoir 300 personnes dans des salles en Suisse à partir de la semaine prochaine. On entend que le festival de Salzbourg pouvant ouvrir le toit de la Felsenreitschule peut avoir lieu cet été. Donc, il faut absolument que nous, on puisse s'aligner là-dessus. À l'heure actuelle, peut-être Avignon, Aix-en-Provence, je ne sais pas, qui avait des talus en plein air, auraient pu quand même maintenir leur édition. Quand on entend que le Puy du Fou ouvre, c'était un très bon signal pour la reprise, mais je pense quand même à toutes les personnes qui ont dû capituler. Et... Bon, voilà. Donc il y a un mélange d'espérance et puis aussi d'assistance, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui pètent un peu les plombs. Donc c'est là aussi que la nature humaine se révèle, hein, dans ce genre de situation. On voit des gens qui ont des réactions merveilleuses, d'autres qui se renferment, d'autres qui paniquent, et il faut faire un petit peu le tri et surtout avoir de l'espérance. Voilà, c'est le principal.
De l'espoir, de l'espérance. Merci beaucoup Marc Minkowski. On retient donc une Carmen, une Traviata la saison prochaine, la suite très bientôt. Je vous propose qu'on se quitte avec de l'espoir et même de la joie. Oui.
Jean-Baptiste, je voudrais juste un instant vous parler de ma double casquette avec les musiciens du Louvre, hein, qui reprennent aussi une très belle saison à la rentrée. Je ne suis plus que le directeur fondateur, pas le directeur artistique. Mais voilà, encore une fois, là aussi, ce sont des intermittents. C'est un très grand pourvoyeur d'emplois. Et là aussi, la DRAC Rhône-Alpes ne se comporte pas très bien. Donc là aussi, j'espère que les politiques vont réfléchir à ce qu'ils font.
Le message est passé. Merci beaucoup, Marc Minkowski. Offenbach, pour finir. Merci beaucoup. Au revoir. La toute fin de l'acte 1 de la Péricole d'Offenbach, c'était le cœur de l'Opéra National de Bordeaux. Les musiciens du Louvre, dirigés par Marc Minkowski. Et si vous voulez aller à Bordeaux, eh bien, allez sur francemusique.fr. Vous pouvez réécouter le concert diffusé hier soir par l'Orchestre National avec Paul Daniel. Et on peut aussi réécouter, côté lyrique, le rare démon d'Anton Rubinstein. Merci à José Bernès, à Antoine Giraud, à Yacine Bouzard, à Marion Guillemet, à Taïsia Froidure et à Margot Muller. Et merci à Émilie Bunera et Rodolphe Bruno Boulmier d'être là, enfin j'espère.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour. Mais oui, nous sommes là. Nous allons commencer l'émission par un très beau disque, sonate de Beethoven pour violoncelle avec Nicolas Hallstedt et Alexander Lonkic.
Du Beethoven, ça vous va? Donc je suis ravi.
Bon, à lundi. Bah, restez à l'écoute et à lundi, bon week-end.
Bon week-end à vous.
À réécouter sur francemusique.fr.